que nous sommes au complet. Nous allons pouvoir commencer cette table ronde dont l'intitulé est « Guerre et paix, amour et haine, voilà la fantaisie » avec Alexandre Malagoli, qui est l'auteur de « Genesia, les chroniques pourpres », dont l'intégrale avec un quatrième tome inédit vient de sortir chez Bragelonne, et il a entamé en même temps une nouvelle trilogie, toujours chez Bragelonne, celle du Roi Sauvage, dont le premier volume, Sanctuaire, est sorti il y a quelques mois. Voilà. À côté de lui, Gabriel Katz, que je n'ai pas besoin de présenter, puisque vous l'avez tous vu hier soir recevoir cet objet d'art magnifique pour sa trilogie du Puits des Mémoires chez Scrinéo. À côté de lui, Paul Béorn, qui vient de publier il y a quelques mois Les Derniers Parfaits chez Mnemos. Lionel Davous, qui est un auteur, mais qui est là pour assurer la traduction de Ken Scholes, à côté de lui. Ken Scholes, qui donc a entamé une pentalogie qui s'intitule Les Psaumes d'Isaac, dont trois volumes sont déjà sortis en français, le dernier étant Antiphon. Et peut-être pour commencer, vu l'intitulé de cette table ronde, je pense que en fait, ce qui m'a frappé en lisant vos ouvrages, c'est que chacun à votre manière, dans des univers qui sont tous très différents les uns des autres, il y a quand même un point commun, deux points communs, qui sont d'une part la guerre et d'autre part la haine. Donc peut-être, qui veut commencer, je pense qu'il serait bon d'expliquer chacun de présenter un petit peu vos univers et donc ces thématiques de guerre et de haine. Qui veut commencer ? Gabriel Katz.
Alors, est-ce qu'on m'entend ? On ne m'entend pas du tout. Si ? Si, je sais pas. Oui.
Ça marche ?
De toute façon, il n'y a pas beaucoup de monde, donc a priori, vous devez entendre. Qu'est-ce que je peux dire sur la guerre et la haine ? Je ne sais même pas si c'est réellement lié, en fait. Je crois que la guerre fait partie du décor dans ce que j'écris. C'est bizarre à dire, mais c'est un peu vrai. C'est un monde où la guerre est un moteur, c'est un mal nécessaire. Et c'est probablement beaucoup plus une toile de fond qu'un élément moteur, à mon humble avis. Maintenant, peut-être que dans le tome 3, que je vais essayer de ne pas dévoiler, ça se trouve, il y en a qui n'ont pas lu, peut-être que dans le tome 3, elle est un peu plus centrale, la guerre en question. La haine, par contre, là, pour le coup, sont des motivations beaucoup plus personnelles, c'est des choses qui sont... Je vais vous dire, j'ai un problème, j'ai peur de spoiler mon propre livre en racontant. Donc c'est extrêmement vague ce que je dis. Mais
oui, parce qu'il faut peut-être préciser quand même que l'intitulé de la trilogie Le Puits des Mémoires, c'est que déjà, vous commencez très fort dans le premier volume. Les premières lignes, c'est trois personnages qui s'extirpent en pleine nuit des ruines d'un chariot et tous les trois sont amnésiques.
C'est ça, c'est le pitch de départ. Et effectivement, ils sont dans un chariot pénitentiaire, donc a priori, c'est pas forcément très pacifique. Ils sont en haillons, ils savent pas ni qui ils sont ni ce qu'ils font là. Ils ne se connaissent absolument pas. Et à partir de là, ils sont traqués par des gens qui sortent de nulle part. Et ils savent absolument pas pourquoi. Donc l'univers est médiéval, teinté de fantaisie, teinté de magie, très sobre, avec assez peu de créatures, etc. On est plus axé sur la diplomatie, sur des rapports un petit peu compliqués entre soit des individus à très bas niveau, soit à très haut niveau. Qu'est-ce que je peux en dire d'autre sans gâcher
suspense ? Vous avez quand même, dès le premier volume, très vite, vous avez par exemple les cavaliers de cristal du Fils de la Lune qui sont là à ravager les campagnes. Ils ne font pas dans la dentelle, ils massacrent beaucoup.
Non, ils ne font pas dans la dentelle, effectivement. Le Fils de la Lune, c'est une sorte de croque-mitaine, en fait. C'est une sorte de personnage emblématique qui va peser finalement sur les personnages pendant les trois tomes de la trilogie. Il traîne avec lui les fameux cavaliers de cristal qui sont des gens très disciplinés, très carrés, très froids. Donc, a priori, ce sont des, entre guillemets, héros de guerre. Ils sont des gens très, très violents, sans aucune espèce de morale. Ils obéissent aux ordres. Effectivement, ils massacrent, ils brûlent, ils tuent, ils pillent. Non, ils ne pillent pas. Et voilà, donc c'est effectivement ce fond de violence qui est là, qui est latent. On ne les voit pas particulièrement. Au début, on ne les voit pas très souvent, mais on les sent derrière. On les sent derrière, ils traquent, ils poursuivent, ils sont là.
Et c'est ce qu'ils font ensuite dans le deuxième volume, etc.
Enfin, c'est ça.
Mais c'est quand même difficile d'éviter. On ne va pas spoiler.
C'est un peu compliqué, oui. Alors, c'est le problème d'écrire un bouquin qui a l'amnésie pour fond avec ce genre de révélation, c'est qu'on reste très vague comme ça, effectivement, sur le contexte.
Oui. Enfin, on peut demander à l'assistance de boucher les oreilles de temps en temps.
Par exemple, oui, effectivement.
Alexandre Malagoli, chez vous aussi, avec les quatre volumes de Genesia, cette intégrale-là aussi, on est dans un univers dont l'un des moteurs, c'est la guerre. Hein, ça commence tout de suite. Alors là, il n'y a pas de spoiler, mais dès le début, l'un de vos deux personnages principaux, Evan, qui est un berger, il rentre pour trouver son village rasé par les inquisiteurs.
Oui, alors là, concernant Genesia, c'est comme c'est un univers de fantasy très, très, très traditionnel, finalement, la guerre est aussi une toile de fond et elle a assez peu de rapport avec la haine dans ce type d'univers, puisque c'est on a les forces de l'ombre d'un côté et puis de l'autre côté, je dirais pas jusqu'à dire les gentils parce qu'ils sont quand même très corrompus, mais... disons le reste du monde, quoi. Et là, la guerre, elle est plus quelque chose de très symbolique, après qu'on peut interpréter de manière soit psychanalytique ou mythologique, enfin comme dans tous ces univers pré-George Martin un petit peu, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout réels politiques, quoi. Il n'y a pas d'enjeu de ressources, de territoire, ça reste des choses très symboliques, assez archétypales, et finalement, dans Genesia, les raisons, les motivations de la grande méchante qui dirige les forces du mal, elles sont purement sentimentales. C'est pas, il n'y a pas de mécanique guerrière comme on pourrait retrouver dans la réalité, quoi.
Ça sera plutôt l'amour, on en parlera après. Cela dit, il y a aussi quand même quelque part, vous disiez qu'il n'y a pas de réel politique, mais on retrouve quand même quelque part la haine avec l'antagonisme entre les républicains et les monarchistes, quelque part, et ces républicains qui réussissent à récupérer d'une part la fille du roi lui-même, la princesse Cessia, et puis qui finalement, et là je ne crois pas qu'on spoil quand même trop, mais qui sont quelque part quasiment prêts à tout pour faire triompher leur cause, y compris justement de s'allier avec les forces de l'ombre.
Oui, bah, ça je ne suis même pas sûr que j'ai eu raison de filer cette thématique-là par rapport au reste du livre, je m'en suis un peu voulu après coup, parce qu'effectivement là... J'apportais quelque chose qui était un peu externe au type d'histoire que j'étais en train de raconter, quoi. Et finalement, d'ailleurs, je reviens un peu sur cette histoire-là dans le dernier volume où le propre chef de la Révolution est quand même très désabusé, il est en fuite, poursuivi par ses propres amis qui veulent sa mort. Et je voulais revenir sur quelque chose d'un peu plus mythologique.
D'accord. Paul Béorn, chez vous, avec Les Derniers Parfaits, on rentre dans un univers encore de fantasy très différent, puisque vous mettez en scène des cathares dans un monde parallèle où les cathares sont devenus excessivement méchants.
Ça, c'est effectivement ce qu'on constate au début du roman. Après, les choses sont à nuancer. Effectivement, dans ce monde, les cathares ont résisté à la croisade, une croisade terrible, comme on le sait, en s'alliant à des puissances occultes, mystérieuses mais visiblement maléfiques. Et 50 ans après cette croisade, ces créatures poussent les cathares à attaquer leurs anciens bourreaux, c'est-à-dire les francs. Et là, on est effectivement dans une guerre de haine.
En fait, c'est une... Excuse-moi, mais... Est-ce que c'est au moment de la croisade de Simon de Montfort, à ce moment-là, tu changes l'histoire et tu fais gagner les cathares, c'est ça?
En fait, c'est un monde différent, parce qu'il y a de la magie, donc on n'est pas tout à fait dans notre monde à nous. Mais effectivement, Simon de Montfort, il est cité dans le roman. C'est plutôt un peu après Simon de Montfort, parce que Simon de Montfort a échoué, en fait. Il s'est fait tuer, sa croisade a échoué. Et après, il y a une seconde croisade royale. Et là, c'est à peu près à cette période-là que les cathares ont été complètement laminés. Montségur, c'est un peu après Simon de Montfort. Et donc, c'est à peu près à cette période qu'ils, désespérés, se sont alliés à ces puissances occultes. Voilà. Qui ont fini par dominer leur religion, leur pays, et les dresser à la haine contre les Francs.
Et là, la haine est un moteur très fort.
La haine est un moteur très fort. C'est même... ces créatures entretiennent la haine dans cette population cathare pour l'adresser contre ces anciens bourreaux, les Francs. Et on sent bien que les choses n'auront pas de fin si quelqu'un n'y met pas un terme. N'arrive pas à briser le cercle vicieux.
Et aussi contre les morts qui continuent d'occuper ce qui reste de l'Espagne, puisque là aussi il y a eu en plus une grande catastrophe qui fait qu'une partie de l'Espagne a sombré sous les eaux.
Oui, parce qu'effectivement, dans ce monde, c'est à peu près comme le nôtre, sauf qu'il y a un élément différent, c'est que la magie existe. Chaque personne possède une petite part de magie, et cette magie peut s'amalgamer, et si des milliers de gens l'amalgame, ça peut donner des catastrophes terribles. Donc effectivement, l'Espagne a été coupée de la France par un nouveau bras de mer, et les morts ont survécu, ont résisté, parce qu'à cette époque-là, en principe, ils avaient quasiment disparu, et ils sont également en guerre contre les cathares.
Oui, ce sont des guerres perpétuelles de tous les côtés.
Ouais.
Chez Ken Scholes aussi, avec les psaumes d'Isaac, on commence dès le début, dès le premier roman qui est Lamentation, on commence dès le début très très fort, puisque dès les premières pages, la grande cité de Winwyr qui est, et on retrouve là le thème de la mémoire, Winwyr est la dernière cité qui est la mémoire du monde et de la culture, est anéantie.
Yes, and I, when the series was, when the first ideas of the story were conceived, it was really a short story about a gypsy king and his men finding a metal man in the ruins of the world's greatest city, and the very beginnings of a mystery of who destroyed the city and why. When I expanded it out, I realized that, of course, the short story ends with him declaring war against the person. And it's not a whole big mystery. You don't have to go more than a chapter to know exactly who destroyed the city. But, of course, there are many layers, and we learn more throughout the five books. But I was experimenting with ideas like the attack on Pearl Harbor, the attack on the World Trade Center, the burning of the library at Alexandria. I was a student of history at the university, and there is a rhythm and cadence to how humans behave. And in this, we get a first taste in the first book, and then there's more, and then there's more. But we're dealing with an act of war that changes the lives of each individual. Is that so much that I need to let you, translate for a minute? You do that, and then I'll come back. Okay.
Quand j'ai commencé à réfléchir à la série, la première idée en fait était le tout premier texte de cette série, et c'est né autour d'une nouvelle où on a ce roi de Tsigane qui découvre un homme en métal dans les ruines de la plus grande ville du monde. Et donc il y a un mystère, c'est une enquête où l'on se demande qui a commis ce crime. Et au fur et à mesure que ça se développe, la nouvelle se termine avec ce roi de Tsigane qui déclare la guerre à celui qui est responsable de la destruction de la ville. Mais c'est pas une enquête, c'est pas un mystère énorme non plus. Dans le livre, ça fait guère plus d'un chapitre. Mais au fur et à mesure, dans le roman et dans toute la série, il y a de plus en plus de strates et de couches qui sont derrière ce mystère, et on en découvre de plus en plus au fil des cinq livres. J'expérimentais un peu avec je réfléchissais à des événements du monde réel comme l'attaque sur Pearl Harbor le 11 septembre, l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, etc. Et quand j'étais jeune, j'étais étudiant en histoire à l'université, Et en fait, on se rend compte qu'il y a une cadence, il y a un rythme au comportement des humains au fur et à mesure de l'histoire. Et donc, dans le premier livre, on a un petit peu un avant-goût de ce rythme-là, et au fur et à mesure, on en a de plus en plus. Mais oui, effectivement, cette découverte de cet homme en métal dans les ruines de Windweir se termine par une déclaration de guerre qui va changer radicalement toutes les vies des personnes impliquées.
And so, in my parents' generation, everybody knew exactly what they were doing the day that John F. Kennedy was killed. In my grandparents' generation, everybody knew exactly what they were doing the day that Pearl Harbor was bombed. In my generation, in my life, it's 9/11. And these things that happen in history have they're an unfortunate part of our evolution. They're unfortunate bits of humanity that we still haven't figured out how to deal with. And I wanted to explore that. One of the reasons why I put the boom right at the beginning of the book was because the exploration in if you look at the first chapter, there are four people who all see the same thing in very different places in their lives, and then the series progresses from there to show how their lives are shaped by war and by terror and by change, with the theme that change is the path that life takes. But I think that war costs too much, and I'm hoping that if we can explore these things in the sandbox of fiction and ask ourselves the hard questions about why hatred would motivate people to go to war. And most of the time, people don't think they're being hateful. Darth Vader wasn't trying to be hateful. He wanted to hold the Republic together. People that do these horrible things think they're operating out of a deep love to save humanity. It's just bent. And then I said a few more words.
Dans la génération de mes parents, tout le monde savait où il était et ce qu'il faisait quand JFK a été assassiné. Dans la génération de mes grands-parents, tout le monde savait où il était et ce qu'il faisait quand Pearl Harbor a été bombardé. Dans ma génération, tout le monde sait ce qu'il faisait et où il était au moment du 11 septembre. Tous ces événements sont malheureusement des événements malheureux, mais des parties de l'évolution humaine, et ce sont des éléments dont on n'a pas encore élucidé le sens, dont on ne sait pas encore quoi faire, et des parties de la nature humaine nous conduisent à ces événements, des parties dont on n'a pas encore véritablement trouvé quoi faire. C'est la raison pour laquelle, dans Lamentation, j'ai vraiment mis le boom, la destruction de la cité de Windweir au tout début du livre, c'est que je voulais ensuite explorer les ramifications et les conséquences de cet événement. Et on a quatre personnages, qui sont ceux qu'on suit dans le roman, qui voient tous la même chose, c'est-à-dire cet événement. Et ils y assistent tous d'un endroit et d'une situation, et ils sont dans une situation différente. Et au fur et à mesure que la série se développe, on voit comment leur destinée est façonnée par cet événement initial et toutes les répercussions qu'il a, comment elle est façonnée par la guerre, la terreur et le changement, et comment cela influe le chemin que leur vie va prendre. Je suis d'avis que la guerre coûte beaucoup trop cher, et c'est bien si on peut éventuellement l'explorer dans le bac à sable inoffensif qu'est la fiction, et comment aussi on peut gérer ces questions de haine. Mais au final, je ne suis même pas convaincu que toutes ces questions de guerre viennent de la haine. Un type comme Dark Vador, par exemple, il est persuadé qu'il fait le bien. À la base, il voulait juste maintenir la République en un seul morceau. Je pense que malheureusement que les gens qui se livrent à ces actes pensent qu'ils et agissent du fond du cœur et à partir d'un amour sincère pour sauver l'humanité. Le problème, c'est que c'est terriblement orienté.
En plus de ça, chez vous, Ken Scholz, il y a aussi un aspect de guerre religieuse et de haine religieuse qui est très important, parce que vous avez dans le monde des psaumes d'Isaac, il y a cet ordre androfrancien qui est quelque part une sorte de mémoire de la culture, un peu comme l'Église catholique et les monastères ont pu l'être dans notre Moyen-Âge européen, et on s'acharne contre eux.
Yes, and in that situation, I was experimenting with the idea of what if a group of scientists came together and created a religious hierarchy and a code of behavior based on behaviorism and evolution and these other things to keep humanity from hurting itself any further and protect it. And as we progress into the series, we see just how far they're willing to go to protect it. And again, like Darth Vader, they're trying to do good, but that good blows up in their face, so to speak. And as we progress through the series, we begin to learn more about who their enemy is, and what's really happening and what their world is really about. It all starts out seeming to be epic fantasy, but I'm hoping people figure out that there's a robot on the first page, a metal mechanical bird. There's a robot in the second or third chapter. People should begin to piece together quickly that I'm telling a story that you have to go all the way through to get the whole story, but I'm thinking about what humans might be like long, long from now if we haven't figured out how to play to the better side of our nature.
En fait, je suis parti d'une la situation initiale quand j'ai commencé à réfléchir à cette histoire. Je voulais expérimenter avec l'idée d'avoir un groupe de scientifiques qui se rassemblent qui créent une hiérarchie de nature religieuse en se fondant sur des théories comme le behaviorisme, etc. et en regardant un peu comment l'humanité se construit et qui essaient de codifier cet ordre selon les règles de l'évolution et du behaviorisme dans le but très noble d'empêcher l'humanité de se faire du mal, de se blesser et pour la protéger. Et à partir de ce grand idéal, on voit au fil de la série jusqu'où ils sont prêts à aller pour protéger cet idéal. Et ils sont un peu comme Dark Vador, encore une fois, c'est-à-dire qu'ils partent avec les meilleures intentions du monde, mais ça leur explose au visage en un sens. Et au fur et à mesure que la série progresse, on voit également qui exactement ils protègent l'humanité, qui est leur véritable ennemi. Et on voit également ce qu'est ce monde et quelle est sa nature. Alors, je me dis aussi, et j'espère que les lecteurs voient où je veux en venir. C'est-à-dire, par exemple, il y a un robot dès la première page, il y en a dans les premiers chapitres, etc. Et je pense qu'on commence un peu, on rassemble assez vite les pièces du puzzle et au fur et à mesure de la série. Alors, évidemment, il y a une histoire, il faut lire toute la série pour avoir le fin mot de l'histoire. Mais en dehors de ça, je pense que c'est relativement transparent que ce que j'essaie de faire, c'est de décrire l'humanité très 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 dans un moment très 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 lointain dans notre avenir et de ce qui se passerait en un sens si on n'avait pas réussi à apprivoiser notre côté plutôt négatif et à nous trouver plutôt plus souvent du côté positif de notre nature.
Côté négatif qu'on trouve fortement renforcé par le roi Lobrog dans les derniers parfaits, puisque c'est un Qartar perverti, et lui aussi, quelque part, il est lancé dans une entreprise de destruction de la société à travers la destruction de la mémoire, puisqu'il a créé une séparation très stricte des sexes, etc. Et il a créé une société qui est totalement dysfonctionnelle, sauf lorsque l'ordre est maintenu par lui. Donc là aussi, acharnement pour détruire la mémoire, quelque part.
Oui, acharnement, et pour faire de l'humanité un instrument, enfin, du moins de l'humanité qu'il contrôle, c'est-à-dire le peuple des Qatars, le peuple qui habite au sud-ouest de la France, pour en faire un instrument de guerre et de domination. Et évidemment, pas au bénéfice des populations qui mènent cette guerre, puisqu'elles aussi sont complètement dominés et assujettis à cet homme qui sépare les sexes, qui empêche tout lien entre les hommes et les femmes et qui presque et qui en fait un pays qui ne peut que faire la guerre et la répandre.
Chez vous aussi, Gabriel Katz, bon, l'absence de mémoire, on l'a dit, c'est la base du roman, mais alors qui chez vous, ça devient quelque part très philosophique parce que on s'aperçoit que lorsqu'on reconstruit sa vie dans un environnement complètement différent, la personnalité quelque part se transforme.
C'est même plus complexe et pire que ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui se réveille à partir de rien, qui n'a plus que son physique et deux camarades qu'il n'a jamais vus, se construit complètement une personnalité avec les quelques petits éléments qui lui restent, c'est-à-dire presque rien. Et il se choisit en fait une personnalité. Et au début de la trilogie, ces gens-là, ne sachant absolument pas ce qu'ils sont, vont vers de vagues embryons, soit de souvenirs, soit des goûts, soit des choses qui leur viennent. Et ils se construisent. Ils se construisent complètement à partir de rien. C'est-à-dire, voilà, je suis adulte, j'ai entre 25 et 40 ans selon le personnage, et je décide que je suis un tel. Et le problème, c'est qu'à partir d'un certain moment, il y a deux choses qui se passent. Il y a la réalité qui leur revient dans les dents au fur et à mesure que les poursuivants les rattrapent, etc., etc. Petit à petit, ils vont s'apercevoir de qui ils sont réellement, parce qu'ils ne sont pas du tout les personnages qui sont construits. Et pire encore, il y a des éléments de leur personnalité enfouis qui ressortent et qui ne contrôlent pas forcément. Parce que finalement, on a beau avoir effacé leur mémoire, je ne vais pas révéler comment, mais bon, ils ont à l'intérieur une personnalité qui n'est pas celle qui se sont construits. Donc c'est un déchirement terrible. Et c'est un déchirement, en fait, entre justement quelque chose de très haineux, de très dur pour certains, et quelque chose de beaucoup plus doux qui se sont construits. Parce que finalement, ils n'ont pas de raison ni de haïr qui que ce soit, ni d'être... ni d'avoir quoi que ce soit de construit au départ. Et l'un d'entre eux particulièrement, qui est Niels, est un personnage qui naturellement est extrêmement violent, et ça va lui remontrer petit à petit. Et il n'aime pas du tout ce qu'il va découvrir.
Oui. Et dans ce cas, on s'aperçoit qu'en fait, la camaraderie puis l'amitié permettent de tout transcender.
D'une certaine façon, oui. D'une certaine façon, oui. C'est-à-dire qu'ils se tiennent les coudes. Quand il y en a un qui glisse, plus ou moins, les autres le rattrapent. Parce qu'ils se construisent à trois. C'est très étrange comme rapport. C'est trois personnes qui ne se connaissent pas, qui n'ont que l'un et l'autre finalement au monde. Donc ce sont des frères, c'est une famille, c'est quelque chose d'à la fois très fort et très artificiel. Et effectivement, quand il y en a un dont la personnalité ressort, qui ne ressemble pas du tout à ce qu'il s'est construit, les autres le retirent finalement vers sa nouvelle personnalité. Donc c'est un peu compliqué, je pense, pour eux. Pour le lecteur, c'est peut-être difficile par moment aussi de se dire finalement c'est presque lequel qui parle. Il y a quelque chose d'un peu schizophrène là-dedans, en tout cas au fur et à mesure, au début pas tellement. Et effectivement, cette espèce de soudure entre les trois fait que ce qu'ils se sont construits va finalement prendre le pas sur le reste.
Chez vous aussi, Alexandre Malagoli, dans Genesia, avec vos deux personnages principaux qui deviennent trois, puisque Evan a une épée, Sorcelam, qui est elle-même une personne en elle-même. Donc là aussi, ça devient, avec la princesse Cécia, une équipe, un trio qui se forme et qui se renforce.
Oui. Je ne sais pas trop quoi répondre.
Par exemple, il y a une amitié, on peut le dire, oui, qui se crée, par exemple, entre Evan et son épée.
Oui, alors, oui.
Qui le rend plus fort.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans ces toiles de fond de fantasy, qui sont quand même souvent assez violentes, les moments sentimentaux, du coup, contrastent un petit peu, et puis on arrive effectivement à avoir des personnages qui construisent leur identité à travers les liens qu'ils ont avec les membres de leur équipe. Enfin, c'est très vrai, notamment justement dans le livre de Gabriel, où c'est vraiment poussé à l'extrême, mais de manière générale, c'est un trope de fantasy peut-être moins évident dans les autres livres, mais ça fonctionne sur le même principe. C'est-à-dire que en plus, bon, dans cette tradition de la fantasy initiatique, un peu de roman d'apprentissage où on a des héros jeunes, ils se révèlent jamais tout seuls. Ils ont soit un mentor, des compagnons. Dans un monde qui très souvent est en déliquescence ou en guerre totale avec des massacres, etc., on voit les personnages se construire petit à petit à travers les liens qu'ils construisent avec les autres. Ouais.
On a parlé de Genesia, mais c'est ce que vous mettez en valeur là, par contre, dans Sanctuaire, dans ce premier tome, où c'est une équipe de cinq jeunes qui vont aller ensemble dans une académie après que se soit révélé un certain nombre de pouvoirs. Leur sensibilité à la magie qui existe dans ce monde fait qu'ils sont, on dirait, élus quelque part, choisis, et donc c'est l'équipe elle-même qui va se renforcer en affrontant l'adversité, entre autres face à une académie où socialement ils sont considérés comme des moins que rien.
Oui. Alors dans Sanctuaire, c'est un petit peu différent. Et en l'occurrence, je pense que c'est plus intéressant comme livre par rapport au thème de ce soir. Ou en tout cas, moi, j'ai eu une réflexion sur le... Alors je ne réponds pas vraiment à la question, mais du coup, ça me fait penser à... pour ce qui est de la guerre et la...
Désolé, je commence à être très fatigué au bout de 4 jours d'imaginal.
Honnêtement, je pense que je suis un intervenant assez difficile parce que j'ai beaucoup le trac et beaucoup de mal à organiser mes idées. Donc ça,
mais
ça,
non,
ça,
nous ça, sommes ça, entre amis ici, heureusement, il n'y a pas de problème.
Je suis content de ne pas avoir une foule énorme.
Il y a quelques chaînes de télé, mais c'est trop fort. Hein.
Mais du coup,
vous
alors,
êtes en direct sur le net.
Mais alors oui, alors pour Sanctuaire, j'ai mener une réflexion pour le coup justement sur le thème de ce soir de la guerre et la haine et l'articulation entre les deux. Ce que j'avais fait jusqu'à présent et notamment dans Genesia, je me posais pas ce genre de questions parce que déjà j'ai pas un tempérament haineux. Je crois qu'au fond de moi j'avais du mal à concevoir que des gens se haïssent. J'imaginais bien qu'on peut être en colère, etc. Mais je crois que je croyais pas vraiment que ce soit possible qu'il y ait vraiment de la haine. J'avais pas vécu ça dans ma vie, enfin voilà. Or, de la haine, il y en a. Et alors, c'est ce que disait Ken tout à l'heure sur le bac à sable inoffensif de la fiction. Alors, je trouve que c'est exactement ça, et c'est ce qui me passionne. C'est de pouvoir... et la fantasy est vraiment un genre, avec le space opéra, c'est vraiment les deux genres idéaux pour traiter ces sujets. Parce qu'on peut essayer de... On peut jouer sans aucun risque, on fait de mal à personne, à mettre en compétition ou en tout cas de faire se rencontrer des cultures qui ne vont pas forcément s'entendre. Et moi, la question qui me motivait un petit peu au moment de ma réflexion pour écrire Sanctuaire, c'était à propos de la guerre et la haine. C'est un peu l'œuf et la poule, c'est-à-dire lequel engendre l'autre. Et parce que d'un côté, bon, on a on sait que la guerre engendre la haine de manière assez mécanique et si c'est pas le cas immédiatement, de toute façon, à travers la propagande et le mensonge de guerre. D'ailleurs, il y a une scène très intéressante dans Les Derniers Parfaits que j'ai trouvée assez saisissante où il y a une des héroïnes qui dit « Mais tu crois vraiment que... » Alors, je ne sais plus qui c'était, un des croisés, un des chefs des croisés. « Tu crois vraiment qu'il a fait ça pour des raisons spirituelles ?» Non, évidemment, c'était pour le pouvoir, les ressources, etc. Et là, moi, ça m'a un peu cueilli parce que, en tant que lecteur, j'avais marché dans la propagande. Je croyais que c'était pour des raisons spirituelles. Et donc, alors, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Donc oui, donc il y a une manière de la guerre d'engendrer la haine. Et en même temps, on peut aussi se faire la guerre parce qu'on se déteste. Et ça, c'est pas moi qui l'invente. C'est l'ethnologie académique qui explique que les peuples de cultures différentes, s'ils vivent trop proches, ils empiètent les uns sur les autres et ils se font la guerre. S'ils vivent trop loin, ils ne se connaissent plus, alors ils se font la guerre. Et tout l'enjeu, c'est de trouver le juste milieu qu'idéalement, on imaginerait peut-être se faire à travers des échanges culturels ou en général, c'est plutôt du commerce. Mais cette recherche du juste milieu, c'est quelque chose de très mouvant, de très difficile à saisir et qu'on peut explorer à travers la fantasy ou le space op de manière totalement inoffensive et ludique.
Ken veut intervenir.
It starts when we're afraid. We become afraid, and then we become violent, just like a monkey, when we're afraid. And then when we have war, we need hate in order to commit war, though we're really trying to deal with being afraid. Wouldn't it be much better if we could just sit down and talk? But that wouldn't be a very good story. But I love what you're saying. You guys are all brilliant. I maybe I should have been born French.
Je voudrais ajouter que, en fait, à mon sens, tout ça commence avec la peur. Quand on a peur, on devient violent, comme le singe que l'on est à l'origine. Et ensuite, pour faire la guerre, on a besoin de haine pour s'y engager et la mener pour de vrai. Alors qu'en réalité, tout ce qu'on essaie de faire, c'est de gérer notre peur. Et c'est ça qui est à la base. Alors, ce serait beaucoup plus simple si on pouvait tous s'asseoir autour d'une table et discuter. Par contre, ça ferait une histoire beaucoup moins intéressante. Mais j'aime beaucoup ce que vous dites et vous êtes tous très brillants, les gars. J'aurais probablement dû naître français.
Alors, c'est peut-être pour ça, pour que en fait, dans tous vos romans, messieurs, bon, la guerre, vous l'avez dit dès le début, c'est la toile de fond générale. Dans certains cas, ça peut être une motivation, mais de toute façon, la guerre est toujours présente. On a parlé de haine et parfois, et donc, de peur de l'autre. Il y a aussi des histoires de vengeance qui parfois découlent, entraînent cette haine, etc. Mais alors, l'amour dans tout ça?
It happens along the way. I mean, and that's what I at least try to do in my stories, because that's how life is. People fall in love, and then one of them is torn away and goes off to war. We send our children off to war, and they are killed. And yet, at the same time, love continues to happen. And people form some of the strongest bonds when they're in the military. When I was in the service, I didn't see action, but they were a family. You know, they were my brothers in arms. And so, you know, I try to tell a story about family. I have characters becoming parents. I have characters who are married because of strategic reasons. I have characters who are in love, and so but torn apart because of the changes that are happening. I think that stories that I like are the ones that are made up of the soup of life. And, you know, I still hope that ultimately the Beatles will be right and that love will be all we need.
Je pense que l'amour se produit en cours de route. C'est ce que j'essaie en tout cas de raconter dans mes bouquins, parce que je pense que c'est comme ça que la vie fonctionne. Les gens tombent amoureux et puis parfois il y a un déchirement parce que l'un d'entre eux doit partir à la guerre, par exemple. Nous envoyons nos enfants faire la guerre et ils se font tuer. Et pourtant, l'amour persiste et continue. Et c'est là où les gens forment les liens les plus forts. Mais également, par exemple, moi, quand j'étais dans l'armée également, on avait des liens extrêmement forts. L'armée est comme une famille. Alors bon, j'ai pas vu d'opération, mais nous étions comme des frères, et mes camarades étaient des frères d'armes. Donc j'ai envie de raconter justement des histoires où il y a un peu cet aspect de famille. Dans les livres, j'ai des personnages qui deviennent parents, j'ai des personnages qui sont mariés, parfois il y a des mariages arrangés pour des raisons stratégiques, parfois des personnages tombent amoureux et puis l'un d'entre eux est appelé au loin et donc il y a un déchirement. J'aime raconter des histoires qui sont faites un peu de tout ça, de tous ces éléments qui forment le grand bouillon de la vie. Alors forcément, bon, moi j'espère quand même que au bout du compte, à la fin, le bien triomphe et que l'amour sera tout ce dont on aura besoin.
Bah, d'ailleurs, c'est chez vous, c'est dans votre série que j'ai vu d'entre vous quatre la seule très belle histoire d'amour entre Rudolfo, le roi de Zigane, le seigneur des neuf maisons sylvestres, et puis Jin Lee.
And yet they only are brought together because her father wants to build an alliance with Rudolfo, and as we learn more, I don't want to spoil things. You better buy my books and read them. And there's also Neb and Winters, and later there are some more. There's actually a very special one coming in the fourth book that I'm not going to spoil, but there's something very good getting ready to happen that it made me cry to write it, and I also have some other surprises. I discovered that one of my really badass characters is in love with Anandra Francine, and they're both men. And so it's life, you know. It's life is messy.
Oui, effectivement, l'histoire entre Rudolfo et Jin Lee Tam, en plus, ce qui se passe les concernant, c'est qu'ils ont été rapprochés parce que le père de Jin Lee Tam veut. Ils sont rapprochés pour des raisons politiques. Parce qu'en plus, le père de Jin Lee Tam veut fonder une alliance avec Rudolfo et les neuf maisons sylvestres. Bon, je veux pas gâcher l'histoire, n'hésitez pas à aller jeter les livres. Mais il y a également l'histoire de Neb, et puis plus tard, on en a encore davantage. Il y en a en particulier une histoire d'amour à laquelle je tiens particulièrement et qui est très spéciale à mon cœur dans le quatrième livre, que je trouve très émouvante et d'ailleurs première qui m'a fait pleurer quand je l'ai écrite. Et puis il y a d'autres surprises le long du chemin. Par exemple, j'ai aussi un personnage qui a un bon gros balèze, qui tombe amoureux d'un moine androfrancien, et ce sont tous les deux des hommes. Bah, c'est la vie, et la vie, bah, c'est un peu le désordre parfois.
En revanche, dans les derniers parfaits, alors que normalement le catharisme incarne l'amour pur, il n'y a finalement pas beaucoup d'amour.
Le catharisme tel qu'il est décrit dans les derniers parfaits a été totalement dévoyé, effectivement, par le désir de vengeance de ce peuple. Mais c'est les créatures qui ont pris possession de ce pays... essayer de dresser tous ces gens à la haine, mais on s'aperçoit que même dans les pires situations, la guerre, la haine, et même en essayant de faire oublier à ces gens leur religion première, en fait, les sentiments humains sont très difficiles à contrôler, et de tous ces chocs résultent énormément de choses, y compris l'amour, des choses totalement imprévues, notamment l'amour entre ces personnages qui, au départ, ne se connaissent pas et commencent à s'apprécier.
Oui, mais amour difficile entre les différents personnages.
Mais l'amour, c'est toujours difficile, Jean-Luc.
Et puis, il faut dire aussi quand même que vous avez l'amour au sens pur avec les personnages des mendicants qui sont les derniers. En fait, ce sont eux les derniers parfaits, d'où le titre du livre.
Oui, ce sont eux que le bogre veut supprimer, détruire, dont tu veux détruire la mémoire. Parce que ces gens, effectivement, ils prêchent pas l'amour physique puisque ce sont des cathares. Mais ce sont des gens qui ont un amour pour leur prochain, quel qu'il soit, qui sont capables de se mettre en danger pour des inconnus. Et c'est là qu'on voit que cette religion a pu créer le pire et également le meilleur. Comme toutes les religions, d'ailleurs.
En revanche, dans le puits des mémoires, l'amour, pas tellement. Hein.
Bah, oui et non, disons que l'amour, dans le puits des mémoires, c'est le rêve impossible. La guerre, ils la sèment derrière eux, ils ne font rien pour... Et finalement, il y a vraiment une traînée de haine, justement, et de guerre derrière eux, parce qu'ils ne savent pas vraiment pourquoi, mais ils la sèment. Donc pour la haine, il y a ce qu'il faut. Pour l'amour, justement, dans tout cet océan de haine, dans toute cette espèce de fébrilité, de poursuite, de besoin de se planquer, de chercher, de comprendre, etc., il n'y a plus beaucoup de place. Il y a un des personnages qui est un cœur d'artichaut, qui n'aide pas beaucoup, donc en plus qui tombe amoureux d'une femme après l'autre, ce qui ne réussit pas forcément. Il y a une histoire d'amour qui est relativement forte entre ce personnage, plus tard, et une femme, mais c'est très difficile, c'est très déchiré, et forcément le contexte ne le favorise pas. Il y a une autre histoire d'amour qui vient un petit peu plus tard, qui est presque pire que la première au niveau impossibilité. Je pense que quand on sème réellement la guerre et la haine partout, qu'on le veuille ou pas, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de place pour la romance? Je dirais que non.
Alexandre Malagoli, qu'en pensez-vous? Parce que vous nous avez expliqué qu'en fait, quelque part, Sanctuaire, donc ce premier volume de votre nouvelle trilogie du Roi Sauvage, était plus adapté au thème de cette table ronde que Genesia. Alors, l'amour dans Sanctuaire?
Alors, dans Sanctuaire, on a d'une part... un héros qui est un prince étranger d'âge mûr, enfin très mûr même, puisqu'il est immortel et qu'il est âgé de plusieurs siècles au moment où commence l'histoire. Mais les autres cinq personnages, puisque c'est un roman choral où chaque chapitre porte le nom d'un personnage, sont tous des adolescents qui sont très concernés par les questions d'amour romantique, etc. Et donc... En l'occurrence, en fiction, en tout cas, je suis assez fleur bleue et j'ai beaucoup de je suis très attaché à la romance et aux histoires d'amour. Donc, j'ai essayé de construire pour chaque personnage des différentes intrigues amoureuses qui sont c'est un peu mon plaisir coupable dans Sanctuaire, quoi. Je sais pas ce que ça apporte au livre, mais j'ai tellement de plaisir à le faire que j'avais pas envie de m'en priver, quoi.
Ça nous apporte beaucoup de plaisir à nous lecteurs, comme aussi lorsque les personnages se déchirent complètement. Et je vois que l'heure a tourné très vite en vous écoutant tous les quatre. Et donc, je terminerai cette table ronde parce qu'il y a un seul terme parmi les quatre du titre de la table ronde que nous n'avons pas abordé, c'est la paix. Et la paix, bah, il me semble qu'elle est absente dans tous vos univers, quasiment, ou extrêmement fragile. Mais d'un autre côté, c'est peut-être un peu provocateur, en se plaçant, nous, du point de vue du lecteur. Est-ce qu'on a envie de lire un livre où on ne parle que de paix? Et est-ce que vous, auteur, vous avez envie d'écrire un livre dans lequel il n'y a que la paix qui règne?
Non, je dirais que non. Je pense qu'à part ma compagne, personne ne veut un livre où il ne se passe que des choses vraiment très paisibles. Je pense que voilà. Mais cela dit, il y a une façon d'amener la paix dans un roman de fantasy qui n'est pas forcément caricatural, qui n'est pas forcément le règlement d'une grande bataille entre deux nations, etc., etc., mais quelque chose qui se fait comme par tractation. Et ça, les Américains le font admirablement, pour citer Game of Thrones, bien entendu, qui est la référence. C'est pas, la paix peut arriver de façon un petit peu douloureuse, un peu tordue, sous forme de petits arrangements, de magouilles, d'argent, de plein de choses, et pas forcément le gentil triomphe du méchant ou le contraire.
Paul Béorn.
J'ai beau chercher dans ma mémoire, je n'arrive pas à trouver un livre de fantasy ou qui ne parle pas de guerre. J'ai cherché, hein, parce que quand j'ai lu l'intitulé de cette conférence, cette table ronde, j'ai lu pas mal de romans de fantasy et je ne me souviens pas d'en avoir eu un. Alors, je pense qu'il y a une certaine mise en danger de l'univers qu'on crée, puisqu'on a le principe qu'on crée un univers en fantasy. Et si on ne le met pas en danger, ça a beaucoup moins de force. Mais en l'occurrence, dans Les Derniers Parfaits, effectivement, il n'y a pas un instant de paix. Par contre, la guerre change de nature au cours du livre. On a au début une guerre de conquête des Qatars et ensuite une révolte à l'intérieur du pays Qatar. Donc c'est une guerre qui est plus porteuse d'espoir, une possible paix qui aura peut-être lieu après le roman.
Alexandre Malagoli, la paix.
Oui.
Vous avez envie d'écrire dessus?
Bah, le problème, c'est qu'on peut ouvrir n'importe quelle bible de scénariste ou manuel d'écriture. Tout le monde nous dira toujours que ce qui fait une bonne histoire, c'est le conflit. Donc, et je crois que c'est une vraie règle. Donc, on pourrait imaginer un bouquin de SF expérimental qui serait basé justement sur l'absence de conflit. Et ça pourrait faire un bouquin génial. Mais un seul, quoi. Je crois que ça peut difficilement être la norme. Puisque la fiction en elle-même est quand même basée sur le conflit en général.
Et pour vous, Ken Scholes, vous avez envie d'écrire un livre sur la paix?
I would love to, but I think it's better to write books about life. And life, there are moments of peace and moments of conflict. And I think that we... I think we strive for peace, but we are, the art that we make, the books that we write, the stories we tell, we do it because it's fun, we do it because we love story, we do it because we want to feed our children, but we also do it because it becomes a mirror through which we can reflect back the life. I cannot think of a time in my life where there's been peace in this world. And in my study of human history, I can't think of a time where there's been peace. And maybe it's maybe what we look for in story, we need conflict to tell story, but isn't it interesting that at the end of most big epic stories, the hero comes home and has a time of peace? And maybe it's our dream, and maybe it's the way that we will learn, you know, to find that. I hope we do. I think my series is quite hopeless because it's distant future and humanity is still fucked up. But at the end of the day, we want a satisfying experience when we tell a story, and the story gives us the structure and the violence gives us the ability to work through all of the complex feelings. And then at the end, the ring is in the volcano. Sauron is gone, and now we can go off to Greyhaven.
J'adorerais écrire un livre sur la paix, mais je pense qu'il vaut mieux écrire des livres sur la vie. Et dans la vie, il y a des moments de paix comme il y a des moments de conflit. Je pense qu'on cherche tous à atteindre une forme de paix et qu'il y a ça derrière la raison pour laquelle on écrit des histoires, on raconte, on écrit des livres, on fait de l'art de façon générale, on fait ça pour un tas de raisons, on fait ça pour s'amuser, on fait ça parce qu'on aime le fait de raconter des histoires, on fait ça pour nourrir nos enfants aussi. Mais surtout, je pense qu'on fait ça parce que les histoires deviennent un miroir qui permettent de refléter l'essence de la vie et de mettre ça en abîme. En fait, je réfléchis et je pense qu'au cours de ma vie, je n'arrive pas à imaginer un moment où le monde, à un moment, a été totalement en paix. Et j'ai étudié donc l'histoire de l'humanité et je ne crois pas qu'il y a eu un moment auquel le monde était totalement en paix. Alors peut-être on va vers les histoires et on s'en raconte parce qu'on a besoin de ces questions de conflit. Peut-être qu'à la fin des grandes histoires épiques, le héros revient chez lui et à ce moment-là, il faut... Certainement, c'est nécessaire qu'ils connaissent un moment de paix. Et peut-être que c'est notre rêve. J'espère. Peut-être qu'on apprendra à trouver ça et j'espère qu'on y arrivera. Peut-être que ma série, d'ailleurs, manque un peu de cet espoir-là parce que je décris un avenir très, très, très lointain. Et puis, en un mot commençant, l'humanité est toujours dans la merde. Mais je pense qu'au fond, on cherche une forme de satisfaction. Avec l'histoire, avec dans une histoire, et c'est une satisfaction qu'on veut vivre. L'histoire nous donne la structure, mais la violence dans cette histoire nous donne la force de travailler et d'avancer à travers toute la complexité de l'existence. Mais à la fin de l'histoire, on a besoin de savoir qu'il y a ce temps de paix, que l'anneau a été lancé dans le volcan, Sauron a été vaincu, et on peut tous partir au Havre Gris.
Je crois que sur ces belles paroles de conclusion, il nous reste à remercier nos quatre intervenants pour ces réflexions sur ce qu'est la fantasy aujourd'hui.